Paris, Clermont-Ferrand et La Roche-sur-Yon, 16 degrés à Marseille et Bordeaux, 19 à Nîmes. Dans le ciel, alors c'est moins calme que du côté du thermomètre, dans le ciel c'est très agité, notamment sur le grand quart sud-ouest, c'est agité des Pyrénées jusqu'à l'Auvergne avec de la neige sur le massif central à partir de 1000 mètres. Et dans le nord-est également aussi, on a de la neige sur les Vosges et un temps agité partout ailleurs. Alternance d'éclaircies et de nuages.
Merci Anissa Haddadi, bon réveil à vous, bienvenue sur Europe 1. Nous sommes le jeudi 25 avril, il est 8h.
Europe 1 matin.
7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
Plus question de faire du profit avec la gestation pour autrui. Le Parlement européen met le holà à l'exploitation de la GPA. Est désormais considérée comme un crime et assimilée par Bruxelles à une traite des êtres humains. Le témoignage dans un instant saisissant de notre invité de ce matin à 7h10. Née elle-même de mère porteuse dans un instant. Quand il faut y aller, faut y aller. Emmanuel Macron se retrousse les manches. Discours sur l'Europe à la Sorbonne ce matin. Objectif pour lui tenter de relancer la campagne de Valérie Ayé, la candidate Renaissance aux élections européenne. La France du plein emploi, elle aussi, attendra. Les nouveaux chiffres du chômage en France seront dévoilés à la mi-journée. Ils ne devraient pas être très bons. Et puis, dans ce journal également, une vidéo, nouvelle preuve de vie d'un otage israélien aux mains du Hamas. Ses parents lancent un appel et font le vœu d'un accord pour libérer tous les otages. 8h10, juste après ce journal, votre invité Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Quel est, selon vous, le candidat le plus européen de cette campagne? Raphaël Glucksmann ou Valérie Ayé? Peut-être Emmanuel Macron qui va décliner tout à l'heure sa vision de l'Europe sans doute fédéraliste. On en parle avec le député socialiste Jérôme Gage. À tout à l'heure.
Mais d'abord le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'exploitation de la GPA, la gestation pour autrui, est désormais un crime en Europe. Le Parlement européen l'inclut depuis mardi dans la liste des traites d'êtres humains, au même titre que l'esclavage, le mariage forcé ou l'adoption illégale. Des sanctions vont être prévues pour ceux qui obligent les femmes à être mères porteuses. Une pratique qu'a lourdement condamné la tête de liste Reconquête pour les élections européennes, Marion Maréchal, hier soir sur CNews.
Jamais je n'accepterai qu'on banalise le fait de louer le ventre d'une femme pour une grossesse. Je ne suis pas un produit à louer, mon utérus n'est pas un produit à louer, les enfants ne sont pas des biens de consommation, ce ne sont pas des biens à vendre qui peuvent faire l'objet d'un contrat. Dans les contrats de mère porteuse dans un certain nombre de pays étrangers, vous avez par exemple des garanties de 2 ans. Ça veut dire que on pose une garantie sur l'enfant. S'il décède, y compris pour des raisons domestiques ou un accident de voiture 2 ans après le contrat, on vous le remplace. Je ne m'habitue pas à la banalisation de cette pratique qui, je le dis, le plus franchement possible, est pour moi monstrueuse et honteuse.
Marion Maréchal qui a reçu une pluie de menaces et d'insultes après ses propos anti-GPA sur X. Propos que défend en revanche Olivia Morel, porte-parole de la déclaration de Casablanca, elle-même née d'une mère porteuse, ce que ses parents lui ont longtemps caché. Elle était l'invitée d'Europe 1 matin, 7h10.
Ils ne me l'ont pas dit, je pense, parce qu'ils ne savaient pas comment me le dire. Et je ne leur en veux pas du tout, mais absolument pas. Ce n'est pas le mensonge, le problème, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, je parle à d'autres enfants qui sont nés par gestation pour autrui. Et c'est que des filles d'ailleurs, toutes ces jeunes filles l'ont su depuis la naissance et ont souffert autant que moi. Et ce n'est pas le mensonge qui a causé mes problèmes, c'est vraiment l'arrachement à ma mère à la naissance qui a causé tous les troubles. C'est ce syndrome de l'abandon, c'est ce problème d'identité. Moi, je voyais qu'il y avait un décalage avec ma mère, je voyais qu'elle était beaucoup plus âgée que la normale. On a plein de signaux qui viennent de l'extérieur, on le sent, on le ressent. On ressent aussi qu'on n'est peut-être pas à sa place, un peu comme les enfants adoptés.
Olivia Morel, invitée d'Europe 1 Matin, témoignage à retrouver sur europe1.fr. Notez que les pays européens ont 2 ans pour mettre en œuvre cette directive européenne qui criminalise l'exploitation de la gestation pour autrui.
L'Europe, justement, au cœur du discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne ce matin.
7 ans après un premier plaidoyer qui avait fait date, le chef de l'État compte faire le bilan de ce qui a été accompli et préparer le prochain agenda stratégique de l'Union européenne. Il s'agit aussi, et surtout, de relancer la candidature de la tête de liste Renaissance, Valérie Ayé, à la peine dans les sondages, Alexandre Chauveau.
Emmanuel Macron en est convaincu, lui seul peut inverser la tendance. La candidature de Valérie Ayé ne décolle pas, alors le chef de l'État convoque l'agenda stratégique de l'Union pour rentrer en campagne. 5 ans après avoir volé au secours d'une Nathalie Loiseau déjà en difficulté, Emmanuel Macron entend rééditer l'exploit plusieurs ministres y voient le vrai point de départ de la campagne. Le programme de Valérie Ayé devrait d'ailleurs rapidement suivre, tout comme la composition de la liste, toujours inconnue à ce stade. Mais la tâche d'Emmanuel Macron apparaît cette fois moins aisée. La faute à l'usure du pouvoir. Après 7 ans passés à l'Élysée, il donne moins envie qu'avant, constate une députée Renaissance sur les marchés. Les Français ont un rapport plus critique que nous à l'Europe, ajoute-t-elle, en citant notamment l'incompréhension suscitée par le prix de l'électricité fixé par le marché européen de l'énergie. Confronté aux dynamiques de Jordan Bardella et de Raphaël Glucksmann, Emmanuel Macron compte donc peser de tout son poids pour tenter de sauver le résultat d'une élection qui déterminera le paysage politique jusqu'à la fin de son quinquennat.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. La France se laissera-t-elle tenter par l'exemple britannique alors que le Royaume-Uni a voté l'expulsion systématique de tout clandestin vers le Rwanda en début de semaine? Un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD révèle ce matin que 67% des Français sont favorables à une mesure similaire pour lutter contre l'immigration illégale dans notre pays.
L'actualité à l'étranger est cet espoir pour les familles d'otages en Israël.
Une vidéo envoyée par le Hamas dans laquelle on peut voir Hersh Goldberg-Polin, 24 ans, américano-israélien, kidnappé lors du festival Nova le 7 octobre dernier. Il y apparaît amputé de la main et d'une partie du bras gauche, mais c'est une preuve de vie qui a déclenché des manifestations des familles d'otages à Jérusalem. Les parents de Hersh ont publié une vidéo pour répondre à celle de leur fils et appeler aux négociations afin de le faire libérer.
Nous sommes soulagés de le voir vivant, mais nous sommes également préoccupés par sa santé et son bien-être, ainsi que par ceux de tous les autres otages. Nous sommes ici aujourd'hui pour lancer un appel à tous les dirigeants des partis qui ont négocié jusqu'à présent. Soyez courageux, saisissez ce moment et concluez un accord pour nous réunir tous avec nos proches et mettre fin aux souffrances dans cette région.
Hersh, nous avons entendu ta voix aujourd'hui pour la première fois en 201 jours. Et si tu peux nous entendre, nous te le disons, nous t'aimons. Reste fort, survie.
Le témoignage très ému des parents de Hersh Goldberg-Polin. La menace terroriste plus forte que jamais également en France. À moins de 100 jours des Jeux Olympiques, un adolescent de 16 ans radicalisé a été interpellé chez ses parents en Haute-Savoie mardi, soupçonné de projeter un attentat pendant la compétition à la Défense.
Vous écoutez Europe 1 Matin, il est 8h07.
Mais quelle note pour la France? Les agences Fitch et Moody's se prononcent demain.
Verront-elles les efforts du gouvernement pour redresser les finances publiques, la simplification des normes, la réindustrialisation, la stimulation de la croissance ou l'objectif du plein emploi? Enfin, sur ce point-là, ce n'est pas encore gagné, Margot Fodéré. Les chiffres de l'emploi pour le premier trimestre vont être dévoilés aujourd'hui à midi et le chômage devrait continuer sa hausse.
Oui, les économistes s'attendent à une nouvelle hausse, légère, mais une hausse tout de même du nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A au début de l'année, c'est-à-dire ceux sans aucune activité. Depuis plusieurs semaines, le marché de l'emploi est plombé par le ralentissement de l'économie. De leur côté, les entreprises ferment les vannes des recrutements, explique Éric Ayer, économiste à l'OFCE.
C'est des problèmes de demande. Les carnets de commandes, aujourd'hui, sont vides. Donc les entreprises, là, ne cherchent plus à recruter.
Sur les 3 premiers mois de l'année, les déclarations d'embauche de plus d'un mois hors intérim ont reculé, selon les chiffres de l'URSSAF. De quoi faire augmenter donc le nombre de Français sans emploi, et cela pourrait continuer dans les prochaines semaines avec l'entrée en vigueur de la réforme France Travail.
À partir de janvier 2025, tous les demandeurs de RSA et tous les bénéficiaires de RSA vont devoir s'inscrire à France Travail. Donc ça peut faire une somme assez gigantesque qui va dépasser le million de nouvelles personnes qui devront s'inscrire.
Sans oublier d'autres obstacles qui limitent encore le plein emploi et la mobilité des salariés en France, comme la pénurie de logements.
Margot Fodéré du service économie d'Europe 1. Le bal des avions au ralenti aujourd'hui, malgré la levée du préavis de grève du principal syndicat des contrôleurs aériens. L'accord avec la direction générale de l'aviation civile est intervenu trop tard. Conséquence, 75% d'annulation des vols à Orly, soit 55% à Roissy et des aéroports régionaux impactés.
Et à Paris, la grosse surprise ce matin pour les habitants du 18e arrondissement.
Ah mais le Moulin Rouge, il est tombé ! Le Moulin Rouge, il est tombé ! C'est quoi ce délire ?
Eh oui, les célèbres pales du Moulin Rouge se sont décrochées cette nuit vers 2h du matin. Elles se sont effondrées sur la chaussée. Le cabaret connu dans le monde entier est désormais privé de son enseigne lumineuse qui a été elle aussi endommagée lors de la chute des ailes. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer.
Ah, elle aussi, c'est un monument culturel. Amy Winehouse sur grand écran depuis hier.
13 ans après sa mort, son biopic promet d'attirer les foules. Mais si vous préférez l'intimité de votre salon pour écouter, pourquoi pas en même temps ses albums, Pourquoi pas découvrir Amy en bande dessinée, son histoire agrémentée de nombreux documents et publiée aux éditions Petit à Petit, Sébastien Bordenave.
15 dessinateurs et trices ont œuvré sur cette BD qui s'appelle sobrement Amy Winehouse, et de la sobriété, il y en aura très peu dans cet album dont on connaît douloureusement la fin. Mais on apprend beaucoup, par exemple, l'amour d'Amy pour sa mamie Cynthia, ancienne chanteuse de jazz sur laquelle Glenn Miller a eu des vues, les cheveux de jet, le regard frondeur, les tatouages 50s et la choucroute capillaire, c'est elle l'inspiration. La BD décrit aussi parfaitement le drame crescendo que fut la vie d'Amy, l'eyeliner grossissant au fur et à mesure que sa silhouette maigrissait pour les tristes raisons que l'on sait. Mitch Winehouse, le père absent, résume en déclarant « Le meilleur album du 21e siècle, Back to Black, parle du pire salaud que la Terre ait porté. Il parle de celui qui a entraîné Amy aux enfers, celui qui faisait passer de la drogue dans ses peluches quand elle était en cure de désintox. La BD Amy Winehouse nous fait totalement regretter la disparition de cette étoile foudroyante de la soul, en espérant qu'elle ait en juillet 2011 refermé derrière elle la porte du Club des 27. »
Sébastien Bordenave.
Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal qui s'achève donc sur ces quelques notes d'Amy Winehouse.
Très bien Dimitri, bel accent.
Je me suis entraîné un petit peu. Allez, restez avec nous dans un instant sur Europe 1. Jérôme Guedj, le député socialiste de l'Essonne, sera l'invité de la grande interview Europe 1 CNews face à Sonia Mabrouk.
7h, 9h, Europe 1 Matin.
Carrefour.
Quand vous me dites « La TVA remboursée sur les téléviseurs ?»
Eh oui, sur tous les téléviseurs Samsung d'une valeur de 699€ ou plus, le montant de la TVA est remboursé sur votre carte Carrefour, soit 16,66% environ du prix TTC. Et c'est jusqu'au 29 avril dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Garantie légale 2 ans, détails sur carrefour.fr.
Yeah, yeah, wow. Merci ma maman chérie, merci maman, merci. C'est comme ça que je te remercie, je t'aime ma maman, merci.
Menu King Junior, 4€, un jour vos enfants vous remercieront. Et en ce moment, 3 gourdes à collectionner chez Burger King. Menu King Junior avec jouets à 4€, prix conseillé. Remise d'une gourde pour l'achat d'une formule glouglou, stock limité. Plus d'infos sur burgerking.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Burger King.
Écoutez Europe 1 en DAB+.
Le DAB+, c'est la radio avec un son de qualité numérique.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, elles sont à 2,99€.
Les fraises rondes ?
Eh oui, en ce moment chez Lidl, la barquette de 500 grammes est à 2,99€.
Ils sont encore et toujours moins chers que nous.
Eh oui, je vous en ramène une barquette avec de la chantilly, ça vous dit ?
Toi ramène ta fraise, t'es mal embarqué.
En barquette, patron.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 5,98€ le kilo, catégorie 1, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Retrouvez du lundi au vendredi à 6h40 sur Europe 1, l'invité éco avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent.
Europe 1 matin, 7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
N'oubliez pas 8h30, Gaspard Proust avec nous, juste après l'invité de Sonia Mabrouk, le député socialiste de l'Essonne, Jérôme Guedj.
Bienvenue et bonjour Jérôme Guedj.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Et merci de votre présence. Vous êtes député socialiste de l'Essonne, vous êtes également secrétaire national à la laïcité au parti, au PS. Dans l'actualité, monsieur Guedj, tout à l'heure, un discours à la Sorbonne comme en 2017 pour Emmanuel Macron sur l'Europe, c'est le discours Sorbonne 2. Est-ce que vous vous attendez à un discours du chef de l'État ou bien un discours de lancement du directeur de campagne de la majorité ?
Le simple fait que vous posiez la question pointe l'ambiguïté du choix du moment. Évidemment, on a la campagne des élections européennes de Valérie Ayer, disons-le sans être discourtois, qui patine, qui n'imprime pas. Quelle est l'orientation, quelle est la vision, est-ce qu'elle a un autre objectif que de sauver le soldat Macron, c'est-à-dire avec, pour l'instant, un résultat qui s'annonce très problématique pour la majorité relative
là,
présidentielle.
C'est Emmanuel Macron qui va essayer de sauver le soldat Ayer, apparemment.
Oui, mais en se sauvant lui-même, parce que il avait tellement, il y a 7 ans, fait de la question européenne un élément identitaire. Et moi, je fais partie de ceux qui avaient été séduits, ou en tous les cas, intéressés par le volontarisme exprimé, notamment les intuitions du président de la République sur la nécessité d'un réarmement d'une souveraineté à l'échelle européenne. Le problème, c'est que en politique, faut pas se payer de mots. Les intuitions exprimées par Emmanuel Macron en septembre 2017, elles ont peut-être été vérifiées par le cours de l'histoire, mais les réponses volontaristes, elles, se sont fracassées sur le louvoiement intrinsèque.
Fracassées.
Oui,
c'est un échec
fracassé.
Sur toute la ligne,
regardez,
sur l'Europe,
prenons,
pour Emmanuel Macron.
Un seul point.
Allez-y.
Qui est essentiel. La question de la guerre en Ukraine a été un test évident sur la solidité de la position des Européens. Emmanuel Macron, en 2017, pointait la nécessité de la construction d'une Europe de la défense et d'une autonomie stratégique.
Ça mange pas de pain, c'est le serpent de mer de tout le monde. Ouais.
Sauf que deux ans après, en 2019, alors même qu'il y a déjà eu, depuis 2014, la Crimée et le début au Donbass, le même Emmanuel Macron et Raphaël Glucksmann, dans son discours fondateur, en tous les cas très principiel hier à Strasbourg, l'a rappelé, le même Emmanuel Macron, en 2019, dit « il faut que nous fassions un front commun » entre l'Union européenne et la Russie. Et on a vu ces atermoiements dans le positionnement par rapport à Vladimir Poutine. Même chose sur la question de la souveraineté, sur les questions énergétiques ou sur les questions industrielles.
Arrêtons-nous sur ce point, parce que vous avez utilisé le mot, et c'est ce que dit Emmanuel Macron, de souveraineté européenne. Très certainement, Jérôme Guedj, qu'Emmanuel Macron va insister sur ça tout à l'heure, sur la défense commune. Et en réalité, le mot derrière cette vision, c'est le mot de fédéralisme. Est-ce que vous le partagez? Est-ce que vous êtes, et vous le dites clairement, je suis pour une Europe fédéraliste et un saut fédéral?
Moi, je suis profondément européen. J'ai un problème avec l'orientation politique de la construction européenne. Vous savez, j'ai mon premier vote était pour le traité de Maastricht en 1992. Et j'avais 20 ans. Et à l'époque, le pari que nous faisions était de dire que l'intégration économique et monétaire va produire mécaniquement de l'intégration sociale et politique. Le problème, c'est qu'on a fait un marché, on a fait une monnaie, mais on a assumé dans les frontières de l'Union européenne une sorte de compétition de tous contre chacun, avec notamment le dumping social et fiscal, avec des fiscalités très disparates d'un pays à l'autre. Et surtout, on ne s'est pas armé au nom du libre-échange face au bloc, qu'il s'agisse des États-Unis ou surtout de la Chine.
Donc Maastricht, aujourd'hui, c'est important ce que vous dites. C'était un moment aussi où certains affirment qu'on s'est assis sur la volonté populaire. Est-ce que ce n'est pas, c'est une crainte et c'est une question, est-ce que ce n'est pas le but d'une Europe fédérale, c'est-à-dire d'effacer, d'annihiler finalement les nations?
Mais vous voyez, je vous ai dit, mon premier vote favorable, il était en 92, c'était un pari. Et 13 ans après, en 2005, j'étais un de ceux qui a fait campagne pour le non, au nom principalement de ce décalage et de cet échec. Et donc aujourd'hui, moi, on a besoin de plus d'Europe, mais d'une Europe qui assume des choix, par exemple, pour permettre une harmonisation fiscale et sociale à l'intérieur des frontières européennes et qui assume, par exemple, cette souveraineté, voire la chance, ce qui était hier un gros mot, et moi je suis très content qu'il soit prononcé par Raphaël Glucksmann, par exemple, un protectionnisme écologique. Le fait de dire qu'avec des mesures miroirs, on impose aux produits qui rentrent dans les frontières de l'Union européenne le respect des mêmes normes de production.
Pardonnez-moi,
en manière
quand
sociale
vous allez rentrer dans le dur, vous verrez que ces clauses miroirs, pour les imposer, il faut être réveillé de bonne heure. Mais restons
parce que justement,
c'est la réalité.
Ben c'est l'échec d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire l'idée de ne pas avoir poussé ce volontarisme-là, mais on peut prendre d'autres sujets. On parle des salariés. Hier, on est allé au bout d'un processus d'adoption de la directive sur la protection, vous savez, des travailleurs détachés, des livreurs, des Deliveroo ou des chauffeurs Uber. Qui est-ce qui a essayé de s'aborder cette directive de protection qui leur permet justement de ne pas être le lumpen prolétariat des temps modernes, totalement exploité, et de pouvoir bénéficier de la protection liée au salariat? C'est Emmanuel Macron lui-même qui a sabordé, du fait de sa position gouvernementale,
donc
ses positions.
Le fossoyeur, si je comprends ce que vous dites.
Mais en tout cas, c'est un double discours qui est insupportable.
Et votre discours, par exemple, sur l'immigration. Plus d'Europe, c'est plus d'immigration pour vous. Est-ce que vous assumez aujourd'hui de dire, j'ai repris les mots il y a 10 ans, puisque vous parlez du passé, du Parti Socialiste, qui affirmait ceci, l'immigration est une chance et c'est un levier d'enrichissement culturel. Est-ce que vous le diriez aujourd'hui?
Mais en tous les cas, ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, enfin, je partage les mots, je refuse.
Aujourd'hui encore?
Mais évidemment, nous sommes une terre d'immigration, nous l'avons toujours été et nous continuerons à être une terre d'immigration. Faut arrêter d'entretenir une fiction qui consiste à dire que l'immigration zéro est le seul modèle. On peut avoir une possibilité,
il y a
avoir
deux.
Une discussion. Non, mais oui, mais
donc l'immigration est une chance, c'est important pour vous.
L'immigration contrôlée et encadrée, c'est une compétence des États dans le cadre européen. C'est pour ça que le pacte asile-immigration qui a été présenté, adopté et que nous n'avons pas voté, précisément parce qu'il n'est pas efficace. D'abord parce qu'il pointe la question de l'asile, et moi je suis attaché à la question de l'asile, et parce que il ne s'attache pas à ces situations dramatiques de ceux qui meurent en Méditerranée ou dans la Manche, et il n'assume pas la construction de voies légales d'immigration dont nous aurons besoin dans le pays.
Est-ce que vous êtes en cohérence avec les Français ? Par exemple, sondage ce matin, 67% des Français, c'est quand même une majorité assez nette, se disent favorables au nouveau projet de loi Jérôme Guedj qui vient d'être adopté en Grande-Bretagne. Ça a été des semaines de débats pour renvoyer les migrants illégaux et les demandeurs d'asile arrivés illégalement vers le Rwanda qui va donc gérer tout cela. 67% des Français. Et quand vous dites que c'est une chance ?
Parce que, pardon de le dire, mais quand on va entretenir et alimenter cette logique un peu simpliste, voilà. Moi, je suis pour le respect du droit. Si on n'a pas des conditions de séjour réguliers sur le territoire national, elles doivent être vérifiées, contrôlées dans des délais dignes, notamment pour l'asile. Et il faut aussi respecter les conséquences. Mais le discours qui éclabousse tout ça, c'est de dire bah, derrière toi, on n'a pas besoin d'immigration. Les mêmes Français dont vous parlez. Si vous leur dites, pour l'auxiliaire de vie qui va s'occuper de votre papa ou de votre maman, pour le serveur qui va travailler, pour le professeur sur le plateau de Saclay qui va enseigner et former vos ingénieurs, vous voulez absolument qu'il n'y ait pas d'immigration ?
Les services d'urgence. Mais croyez-vous que ce discours tient encore avec un taux de chômage comme celui qui est le nôtre ?
Mais nous savons aujourd'hui que nous avons des secteurs en tension pour lesquels, de toute façon, le recours à l'immigration, en plus de la mobilisation de l'ensemble des résidents réguliers français ou étrangers sur le territoire national, est nécessaire. Enfin, vous savez, la démographie, c'est aussi un facteur de puissance. Et considérer que se priver de cet apport migratoire, vous savez que l'année dernière, pour la première fois, il y a eu plus de décès que de naissances sur le territoire
français. L'immigration va venir, combler le déficit de natalité.
Il s'agit pas de combler. Je défends aussi le réarmement d'une politique nataliste, à condition que ce soit une politique sociale de soutien, notamment aux familles, de soutien aux femmes qui doivent concilier vie professionnelle et vie familiale. Mais de grâce, cessons d'alimenter un discours à ce point anxiogène sur ce qui n'est pas une opinion. C'est un fait de société, c'est un fait démographique qu'on va pas balayer d'un revers de la main.
Nous avons parlé d'Europe, d'immigration, vous avez parlé de protectionnisme écologique. De son côté, la France insoumise veut mettre surtout Gaza, Jérôme Guedj, au cœur de la campagne. La convocation par la justice de Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée, fait couler beaucoup d'encre dans le cadre d'une enquête pour apologie de terrorisme. Est-ce que vous considérez que c'est une judiciarisation du débat que vous dénoncez, ou alors, sur un sujet aussi grave, LFI doit s'expliquer sur son communiqué et ses propos ?
Moi, je suis très clair, Sedel Mabrouk. J'étais Charlie et je suis toujours Charlie. Je suis trop attaché à la liberté d'expression pour considérer que, dans le débat politique, chacun n'est pas libre de dire ce qu'il veut. Je me suis prononcé sur ce communiqué du 7 octobre. C'était une faute politique et morale. Je l'ai condamné et j'en ai tiré les conséquences. Mais je le combats sur le terrain politique et moral. Judiciariser et criminaliser, comme on le voit depuis plusieurs années, les questions syndicales, les questions associatives, on l'avait vu avec les soulèvements de la terre.
Vous le dites pour tous, pas seulement pour une personnalité de gauche.
Je le dis pour tous, voilà. Je n'aime pas cette espèce de chape de plomb qui consiste à détourner des outils de la lutte antiterroriste. Cette disposition sur l'apologie du terrorisme, c'était une disposition prise dans le cadre de la lutte antiterroriste, et de venir pointer tel ou tel. Maintenant, après, j'assume le débat politique, et je le fais y compris avec des gens qui n'ont pas hésité à me jeter en pâture quand je n'étais pas d'accord avec eux.
C'est pour ça que j'ai démarré par cette question avant d'aller sur...
C'est le débat politique.
Vous avez été une cible dans ce débat, puisque Jean-Luc Mélenchon vous a dénoncé comme étant l'un des instigateurs de l'annulation de sa conférence. Allez, vous avez affirmé que vous n'aviez pas demandé cette annulation, mais vous avez dénoncé d'ailleurs très rapidement le fameux logo sur l'affiche de cette conférence qui, je le rappelle, nie l'existence d'Israël. Mais de quoi Jean-Luc Mélenchon, pour vous, Jérôme Guedj, pour vous, pour votre histoire, pour votre engagement, pour vos convictions, se rend-il coupable en adoubant un tel logo ?
Ben, il entretient une ambiguïté, c'est le point que j'ai dénoncé. En effet, c'était mensonger de dire que c'était sous mon impulsion que cette conférence à Lille a été annulée. Je vous ai dit, je suis attaché au débat démocratique, et j'avais dit très clairement, chacun peut choisir les thèmes qu'il veut aborder. Mais souffrez que moi-même, je puisse dire que les ambiguïtés depuis le début de ce conflit porté par la France insoumise m'ont été insupportables. Le communiqué du mois d'octobre...
Il est ambigu encore ? Quelle ambiguïté il y a, en réalité, quand vous adoubez... Non mais je pose une question, Quand vous adressez un parallèle, pour être précise, entre le président d'une université et Adolf Eichmann, où est l'ambiguïté ?
Mais pour moi, tout ça, ce sont des fautes politiques et morales. D'ailleurs, plutôt révélatrices d'une fébrilité dans cette campagne électorale. Et surtout, l'absence de nuances. Parce que, voyez-vous, on veut me réhabiller comme d'autres dès l'instant où on n'est pas aligné sur les positions de la France insoumise, et on peut ne pas être aligné sur une partie des positions. Le point de départ était l'absence de condamnation claire du Hamas comme mouvement terroriste. Moi, je demeure sur la ligne qui n'a pas bougé. Voilà. Je pense d'abord que c'était une attaque terroriste. Je pense aujourd'hui encore à la libération des otages. Et dans le même temps, et bon sang, pourquoi on n'arrive pas dans ce pays à pouvoir dire ça et à dire non aussi
qui,
que je
on
suis.
N'arrive pas. Non,
mais,
qui n'arrive pas.
Mais parce
c'est
qu'on,
important,
parce
c'est
qu'on
quelqu'un,
nous enjoint,
pardon,
on nous enjoint, c'est, on nous enjoint de choisir
vous
un camp.
Vous étiez dans et le même veux, mouvement la nuit.
Et je veux terminer ma phrase parce que sinon on va dire que je suis hémiplégique. Je veux pouvoir condamner le Hamas, dire qu'il est l'adversaire des Palestiniens et dire aujourd'hui que la riposte israélienne est insupportable.
Je vais vous poser. Je, on et, va en parler.
Et il faut le dire extrêmement clairement que je combats le gouvernement de Benjamin Netanyahou, comme hier soir des Israéliens sont allés manifester devant son domicile pour dire ça suffit. Donc le fait
Monsieur
que
Gage, attendez, on va y venir. Je veux comprendre. Vous avez
choses.
Été ciblé. Il y a comme on dirait des haters sur les réseaux sociaux
oui,
quand même.
Je confirme.
Qui,
voilà.
Qui vous poursuivez. Donc moi j'aimerais savoir par rapport à Jean-Luc Mélenchon où vous en êtes aujourd'hui. Vous me dites des ambiguïtés. Est-ce que c'est votre gauche et comment vous le qualifiez tout simplement.
Écoutez, la conséquence. J'espère que tout le monde l'a vu. La conséquence de ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est que la coalition politique que nous avions mise en place en juin 2022 n'existe plus. Voilà, j'ai été un de ceux, et franchement, je n'en tire aucune gloriole, mais c'était pour moi épidermique et principiel.
Mais pourquoi
de constater...
avoir attendu ce temps? Vous ne vous doutiez pas de telles ambiguïtés? Moi, c'est parfois, votre étonnement peut étonner. C'est-à-dire,
écoutez,
vous ne vous doutiez
savez,
pas que
vais,
sur Israël, Jean-Luc Mélenchon avait de telles positions?
Non, pour la raison simple, c'est que je...
Vous n'avez jamais discuté avec vos alliés de
non,
ce
mais
sujet-là
pour, bah, sur ce sujet-là, je vais vous prendre un seul exemple.
Ça fait 50 ans que le conflit existe.
Oui, mais sur ce sujet-là, Jean-Luc Mélenchon lui-même, dans une conférence qu'il avait faite en janvier 2024, a reconnu que ce n'était pas un sujet sur lequel il allait beaucoup travailler. Je vais vous prendre qu'un seul exemple. Jean-Luc Mélenchon a sorti un livre juste avant le début du conflit. Dans ce livre, moi je lis attentivement les écrits politiques des uns et des autres, il n'y a pas une ligne sur le conflit israélo-palestinien. Il n'y a
mais
pas une seule ligne sur le conflit israélo-palestinien.
Vous aviez un doute sur
c'est
ces
bien
positions
la Non mais, en tous les cas, moi la position qui d'ailleurs était celle qui était dans notre accord politique, était le soutien à une solution à deux États, qui ne passait pas par cette logique de conflictualisation et de déséquilibre. Moi j'avais été heurté par ce communiqué, mais vous voyez... ils ont fait le choix de faire de ce thème-là un sujet de la campagne des élections européennes. Voilà. Pourquoi pas? Mais donc, du coup, ils sont enferrés dans une logique de surenchère, de clivage, et donc, du coup, de délimitation. Alors que, dans le débat, encore une fois, comment on rend audible la nécessité de la protection des civils palestiniens? Et voyez, quand je dis ça, je le dis à tous les endroits. Quand je vais le dire à une manifestation pour demander la libération des otages, je me fais siffler par une partie du public qui considère que dire ça, c'est un crime de lèse-majesté et c'est une atteinte à la défense de l'État d'Israël. Est-ce qu'on peut avoir de la nuance dans le débat politique? Est-ce qu'on peut avoir une position équilibrée? Moi, je suis un universaliste républicain. Et pardon de le dire, entre Meir Habib et Rima Hassan, eh bien, je pense qu'il y a un chemin, qui est un chemin de la raison,
vous les mettez,
qui est capable...
Vous les mettez dans des position, comment dire, opposée, mais sur le même plan?
Ben, en tous les cas, dans le niveau de crispation identitaire et d'impossibilité d'avoir une écoute, les Israéliens eux-mêmes sont traversés par ce débat politique. Et nous, il faudrait qu'on soit campé sur des positions à ce point heurtées. Moi, j'essaye d'avoir cette position où, je le redis, la colonisation en Cisjordanie, c'est une faute politique, c'est la guerre telle qu'elle est menée aujourd'hui, les dizaines de milliers de victimes palestiniennes me heurtent, me blessent, me révulsent matin, midi et soir. Et je suis pour la protection de l'ensemble de ces civils. Je suis pour que Israël, comme l'ensemble de ses partenaires le lui demandent, ne soit pas embarqué dans une fuite en avant pour des mauvaises raisons et qu'on garde la perspective d'une solution politique à deux États. Mais je suis dans le même temps pour reconnaître que le Hamas ne peut pas être un interlocuteur. Il continue à détenir des otages aujourd'hui. Il a engagé le 7 octobre.
Vidéo qu'on a découvert
hier
sur
encore,
un otage américano-israélien.
Et surtout, le 7 octobre, il a envoyé ce message-là de... d'élimination de l'existence même de l'État d'Israël à travers la barbarie des attaques qui a été faite. Et donc, toute complaisance ou ambiguïté à son endroit, forcément, me heurte.
Et vous appelez à la nuance sur les
En général, j'appelle
positions.
À la nuance dans le débat politique, mais la nuance n'est pas une pusillanimité.
C'est pas un manque de courage.
On peut avoir
Au contraire.
C'est surtout pas un manque de courage. Alors, au contraire, c'est très paresseux d'être à ce point clivant.
Nous avons beaucoup parlé de sujets très importants. Il y en a un auquel il faudrait consacrer, j'allais dire, des journées. Des journées, c'est ce que vous allez faire. C'est très important. La fin de vie. Je vais quand même rappeler que vous connaissez bien ce sujet, Jérôme Guedj. Vous faites partie de la commission spéciale sur la fin de vie à l'Assemblée. Il y a beaucoup de questions à ce sujet. On va les laisser pour une prochaine fois, l'occasion d'un grand rendez-vous que nous devions faire ensemble. Mais sur la date, c'est prévu pour le 27 mai et le 6 juin. Est-ce que cette date est tenable aujourd'hui?
Alors, il y a deux bonnes nouvelles. On a un texte, enfin, le gouvernement qui nous dit les parlementaires vont pouvoir l'amender, le faire bouger. On a une bonne base de départ. Et moi, je m'en félicite. Et tel que les travaux ont débuté sous la présidence d'Agnès Firmin-Lebaudo et avec le rapporteur général Olivier Falorni, on va, je l'espère, pouvoir travailler intelligemment. Je l'ai dit dès la première séance, le fait d'avoir choisi du 27 mai au 6 juin, il y a un télescopage avec le calendrier des élections européennes et c'est bon ni pour l'un ni pour l'autre. Voilà. Et donc, merci. Moi, j'avais proposé tout simplement qu'on le décale. Ce sera pas le cas. Et j'espère qu'on va garder la sérénité nécessaire pour nous permettre de légiférer dans
merci
la durée.
Merci, Jérôme Guedj. C'était votre grande interview.
Merci, Sonia Mabrouk. Merci, Jérôme Guedj. Dans un instant sur Europe 1, vos signatures, à commencer par Gaspard Proust.
Bonjour, c'est Pierre de Villeneuve. Je vous donne rendez-vous dès lundi, de 19h à 21h, pour Europe 1 Soir, nouvelle formule. 2 heures d'actualité pour préciser, décrypter et débattre de l'information de la journée, avec des invités et les voix d'Europe 1.
Europe 1 Soir, présenté par Pierre de Villeneuve.
Alors rendez-vous lundi, de 19h à 21h, sur Europe 1.
À tous ceux qui, après le repas, se transformaient en artistes avec la cire des Babybel. Je vous présente un cow-boy qui est tout rouge. C'est conceptuel. Papa, regarde, un diplodocus, mais tout rouge. Et un nez de clown.
Oui, c'est très rouge, quoi, surtout.
Chez Intermarché, pour l'achat d'un produit de la marque Babybel, le second est à moins 60%. Et c'est aussi au drive et en livraison.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 28 avril, sur le moins cher des deux, origine France, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus.
Tic-tac, 4 jours exceptionnels vous attendent chez Ixina. Durant ses portes ouvertes, Ixina vous offre non pas 150, mais 200 euros par tranche de 1000 euros sur votre cuisine équipée. Pour en profiter, rendez-vous en magasin avant le 28 avril. Ixina, vie à vos rêves. Voir conditions sur ixina.fr.
La Meute, c'est le nouveau thriller d'Olivier Ball. Des notables enterrés vivants, des réfugiés assassinés. Le cauchemar a un nom, la Meute. Un groupuscule terrifiant qui pourrait bien faire vaciller la société. Pour l'enquêtrice Sofia Giordano, une plongée glaçante dans la mécanique du fanatisme. La Meute d'Olivier Ball, un livre XO.
Grand frais.
Ouais, Francky, bon, je vais pas pouvoir venir te chercher à la gare, hein. Là, je peux pas, j'ai grand frais. Ils ont une burrata ultra crémeuse, parfait pour ma salade de tomates. Donc, attends-moi un peu, t'inquiète, j'en ai pour 4 heures max.
Chez grand frais, retrouvez chaque jour des petits prix. Et jusqu'à samedi, la burrata dépouille de 150 grammes est à seulement 2,49€. Régalez-vous, faites vos courses.
Grand frais,
le meilleur marché.
Soit 16,60€ le kilo, pourcentage de matière grasse précisé sur le lieu de vente, au lait de vache, élaboré en Italie. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
7h, 9h, Europe 1 Matin.
8h32 sur Europe 1, Anissa Dadi. Le temps, jeudi nuageux, pluvieux également.
Oui, de la pluie sur l'ensemble du grand quart sud-ouest des Pyrénées jusqu'à l'Auvergne, avec de la neige sur le massif central. C'est agité également dans le nord-est, entre l'Alsace et les Alpes du Nord. Partout ailleurs, on a un ciel partagé entre nuages et éclaircies. C'est très ensoleillé au bord de la Méditerranée, mais avec toujours des rafales de vent à 80 km/h. Les températures cet après-midi, tout au-dessus de 10 degrés. 10 degrés à Belfort, 14 à Paris et 19 la maximale pour Nîmes.
Merci Anissa Haddadi.
7h, 9h, Europe 1 Matin.
Il est l'heure de vos signatures Europe 1 dans un quart d'heure. Le zapping politique signé ce jour, Jérôme Béglé, le directeur général de la rédaction de Paris Match, qui met ce matin pour son numéro anniversaire 75 ans. Le Splendide réuni au grand complet. On en parlera dans la revue de presse avec vous, Olivier Delagarde. Bonjour.
Évidemment, bonjour à vous.
Qu'est-ce qu'on lit dans les journaux ce matin?
Le grand écart avec un match amical et puis la Coupe d'Europe. Je vous emmènerai de la Sorbonne à Columbia et puis donc on parlera, vous nous le disiez, de Paris Match.
Voilà, et avec Emmanuel Ducrot, on se penchera sur la sortie de ce petit guide du manifestant arrêté qui paraît ces jours-ci en librairie. Les auteurs, surprise, appartiennent au syndicat de la magistrature. Mais d'abord, nous retrouvons Gaspard Proust. Bonjour Gaspard.
Bonjour tout le monde, chers auditeurs et bien sûr chères auditrices, vous qui consentez tous les matins plus nombreuses à l'écoute de ma chatoyante voix.
Bonjour.
vous les femmes. Bon, bonjour Gaspard, un peu de sérieux. Vous nous avez parlé de ces internats pour jeunes à la dérive. Hier, vous avez critiqué le coût de ces structures. Mais j'ai envie de vous dire, critiquer c'est facile. Mais vous, face aux délinquants, vous feriez quoi?
Mais je vous remercie de me poser la question. Et j'ai comme l'intuition que si je ne vous l'avais pas écrit, vous ne m'auriez pas vu comme une force de proposition pour remettre dans le droit chemin ces gens-là. Et comme dirait Maria Pacôme dans Les Soudoués passent leur bac...
Je les mettrai.
Alors votre solution, c'est quoi, Gaspard, pour les mater, comme vous dites
Alors vous me connaissez, vous savez à quel point je déteste la violence et que je suis avant tout un pacifiste. Moi, pour récupérer des jeunes à la dérive, je crois beaucoup à une chose, la méditation.
La méditation, c'est-à-dire
C'est-à-dire que plutôt de faire des internats avec des flopés d'éducateurs qui vont coûter une blinde, moi j'aimerais que ces jeunes, on leur fasse confiance. Qu'on les laisse se retrouver avec eux-mêmes, en autonomie.
En autonomie.
Oui, et pour ça, le mieux serait de les accueillir dans un centre de recueillement et de réflexion, comme une sorte de monastère laïque, très loin de toute forme de vie humaine. Parce que comme le prouvent toutes les études, et comme le dit si bien le docteur Boris Cyrulnik Tamer, le frère énervé de Boris Cyrulnik Ta Résilience, plus ce lieu est éloigné du domicile, plus il est hostile, plus il est petit, moins il est chauffé, plus la puissance méditative peut se déployer.
Alors vous avez une idée, hein, comme endroit?
Oh bien sûr, Kerguelen, Cayenne, l'île du Diable, toute une série de lieux de méditation énergétiquement très chargés. Et on pourrait imaginer que dans ces endroits, bon, où ils partageraient une cellule de, disons, 5 mètres carrés grand max pour 10 personnes, eh bien ils pourraient vraiment se concentrer sur la respiration en faisant des cycles de, je ne sais pas moi, 10, 15, 25 ans, ce qui permettrait de faire un vrai travail sur le diaphragme. Parce qu'on dit souvent que 5 minutes de méditation par jour, ça suffit, mais je vous assure que pour approcher la paix intérieure d'un saint François d'Assise ou de Bouddha, l'idéal, c'est 30 ans de méditation. Face à un pingouin qui fait des allers-retours sur une banquise balayée par des vents à 100 km/h, on marche sur l'eau à la
oui,
fin.
Oui, c'est le bagne là, que vous nous décrivez, Gaspard.
Non, ce n'est pas le bon mot. Et comme disait Albert Camus Hanouna, mal nommer les choses, c'est ajouter de la rasra à la darka.
Gaspard, pardon, si ça a déjà existé, je maintiens, ça s'appelle le bagne.
Vous êtes cruel, Dimitri. Moi, je parlerais plutôt d'expérience monastique aux embruns. Ou si c'est sous les tropiques, d'ashram laïque, paludisme friendly. Je vous assure que ça marcherait et ça coûterait pas un copec.
Ah, vous croyez?
Ah bah franchement, si pendant 20 ans, tu manges que du pain sec, tu bois que de l'eau et tu passes ta journée à te contorsionner dans un espace de 3 mètres carrés, bah, il y a moyen qu'en sortant, bah, t'ouvres un centre de yoga dans le Marais, hein. Ça ferait des belles histoires. Demain dans le Marais, ouverture d'un nouveau centre de yoga asana. Ça s'appellerait Kevin et Mathéo chauffent ton chakra. Vous connaissiez les postures du yoga asana? Mettez du piment dans votre pratique et découvrez les postures du yoga burrata avec Matteo et du yoga harissa avec Kevin.
Je ne sais pas pourquoi, Gaspard, mais ça me semble quand même un peu radical, votre solution, là.
Ouais, c'est radical. Ah, vous trouvez que ça... Ben ça, c'est votre petit Bayrou intérieur qui vous murmure des choses mauvaises.
Mon Bayrou intérieur?
Oui, on a tous ça en nous, les deux voix intérieures qui nous parlent. D'un côté, l'ange gardien, le bon, tu sais, celui qui est assis dans la tourelle d'un char d'assaut avec un bandeau sur un œil et qui hurle « Feu, go, on y va, trépasse que je faiblisse !» Et puis le mauvais, le petit diable, la tête de François Bayrou, qui arrive en charentaise avec portrait de Jacques Delors sous le bras, à chaque fois que t'as envie de prendre une décision puissante dans ta vie et qui te murmure « Tu es sûr que tu veux te lancer dans cette entreprise car elle comporte le risque de fracturer la société française. Et rien que l'idée, ça me fait déjà bouger les pompons sur mes charentaises. Je nomme plein d'idées disruptives. Si tu veux traverser la vie politique comme moi, c'est-à-dire telle une carriole aux roues carrées traînée par un poney cul de jatte, hâte-toi de ne rien faire.
Bon, dites donc, Gaspard, dans l'actualité brûlante du jour, vous avez vu toutes ces personnalités de la France insoumise convoquées au commissariat?
C'est beau comme dans un film de Spielberg.
Un Spielberg? Mais quel rapport?
Ouais, j'avais l'impression de revivre un épisode de E.T. J'avais cette image, Mathilde Panot, Louis Boyard, Ercilia Soudaire, Rima Hassan, tous collés serrés dans la corbeille d'un vélo électrique, Mathieu Vallée en train de pédaler. Ils regardent Mathieu Vallée d'un air tendre, comme ils savent si bien faire, ils pointent le commissariat et lui disent « retournez maison hein ». C'est la Smala de E.T. qui veut retourner dans son biotope naturel. Parce que, non mais il faut être... Comme il parle tout le temps que des flics, c'est quelque part, il y a une relation passionnelle. Tu vois, ils veulent retourner. C'est ça, il faut l'assumer. Je sais que c'est dur pour l'extrême gauche.
Bon, autre actualité, Gaspard, j'imagine qu'il ne vous a pas échappé cette décision du Royaume-Uni d'expulser les demandeurs d'asile vers le Rwanda. Vous avez un commentaire sur le sujet?
Je suis trop bouleversé pour faire un commentaire et je me contenterai juste d'une chanson.
Voyage, voyage.
Plus loin.
Vous n'avez pas les paroles.
Merci beaucoup, Gaspard Proust.
Je vous en prie.
Bon, c'était bien avant votre week-end. Bon, c'est un bon repos. On vous retrouve mardi prochain.
J'ai besoin. Qu'est-ce que j'ai turbiné.
Oh là là, là, ça a été épuisant. Merci, Gaspard.
On se rendez-vous mardi. 12 minutes.
Et oui,
j'ai l'impression d'être un contrôleur aérien.
On vous retrouve mardi prochain sur l'antenne d'Europe 1.
Mais 3 fois 3 minutes, ça fait 9 minutes,
oui.
Gaspard.
Ah oui, c'est vrai. Oui. Non, parce que... Oui, putain, t'as raison.
Oui.
Vous voyez, ça, c'est le surmenage.
Vous pouvez rester un peu avec nous, Gaspard. Dans un instant, on va retrouver Emmanuel Ducrot. Pascal Pro passera une tête pour le sommaire de Pascal Pro et vous. Et puis la revue de presse d'Olivier Delagarde. À tout de suite.
Europe 1, c'est donc désormais officiel. Le déficit pour 2023 s'élève à 5,5% du PIB.
La France ne lésinera pas sur les dépenses pour lutter contre le terrorisme.
Quand on dit qu'on n'exclut pas d'envoyer les troupes au sol, naturellement, vous créez une onde de choc dans le pays.
Pardonnez-moi, mais comment voulez-vous que les délinquants, que les terroristes, qui que ce soit, aient peur de la prison?
Nous avons été informés qu'une menace attentat avait lieu sur le lycée de mon enfant.
Ça a tiré pendant au moins 30 minutes, comme si c'était une guerre, en fait.
Il nous faudrait systématiquement une déclaration commune, une concorde nationale, pour condamner tous ces actes.
Europe 1, avec vous.
Il y a une Opel pour chaque. Chaque. Et chaque. Parce qu'il y a une Opel pour chaque métier. Avec 20 systèmes d'aide à la conduite et jusqu'à 420 km d'autonomie en électrique, découvrez la nouvelle gamme de véhicules utilitaires Opel, disponible en version thermique et électrique. Et pendant les journées Opel Pro, profitez de 5 ans de garantie offerte. Rendez-vous chez votre concessionnaire Opel pour trouver le partenaire de vos ambitions. Garantie constructeur de 2 ans plus 3 ans d'extension offerte jusqu'au 30 avril. Détails sur opel.fr.
Une série de crimes hors normes. Un réalisateur fou retiré dans ses montagnes. Une étudiante en cinéma trop curieuse. Pour l'inspecteur Servaz, l'horreur vient d'entrer en scène. Découvrez Un œil dans la nuit, un thriller glaçant de Bernard Minier aux éditions Pocket.
Une urgence sur votre pare-brise ? Appelez Carglass au 3044.
3044.
Avec le 3044, vous êtes sûr de parler à un vrai conseiller Carglass et l'appel est gratuit. N'oubliez pas, une urgence sur votre pare-brise ? Appelez Carglass au 3044.
3044.
Et l'appel est gratuit.
Carglass répare, Carglass remplace.
Ceci n'est pas une publicité, c'est votre horoscope du printemps. J'explique. Ça y est, c'est les beaux jours, c'est le grand ménage de printemps et vous avez des envies de changement. Voici donc la meilleure période pour vous de filer chez Butte. Et ça tombe bien, en ce moment, il y a moins 20% sur tout l'univers décoration des 3 produits achetés. Au regard de votre tempérament, il est probable que vous vous fassiez très plaisir. Et c'est tant mieux. Luminaires, objets de décoration, tapis, art de la table, parure et linge de lit, rien ne vous résiste. Votre désir de nouveauté se fait pressant, alors foncez chez Butte ou sur Butte.fr, découvrez la sélection produits et les conditions de l'offre.
Grand frère !
Le meilleur marché.
Soit 16,60€ le kilo, pourcentage de matière grasse précisé sur le lieu de vente, au lait de vache, élaboré en Italie. Pour votre santé, bougez plus.
Europe 1 matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
Tous les après-midi sur Europe 1, suivez Stéphane Bern qui vous emmène à la découverte de lieux, d'événements ou de personnes qui ont marqué l'histoire.
Et cet après-midi, Stéphane Bern vous raconte une partie de l'histoire du Portugal. Il y a 50 ans, le 25 avril 1974, c'était la chute de la dictature salazariste. La véritable histoire de la révolution des œillets racontée par Stéphane Bern, c'est cet après-midi de 15h à 16h sur Europe 1.
La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence par un match de football un peu particulier.
Oui, d'ailleurs, ce n'est pas dans l'équipe que vous en lirez la recension, mais dans le Parisien, et pas dans les pages sport, mais dans les faits divers politiques, si on peut appeler ça comme ça, parce que le seul intérêt de ce match, outre les 57 000 balles en pièces jaunes récoltées, c'était la présence du président de la République sur le terrain. Comme quoi, chef d'État, ça vous laisse quelques loisirs le mercredi après-midi. C'était donc hier, à plaisir, dans les Yvelines, un match caritatif organisé par notre Jacques Vendroux national. Et c'est drôle comme le sport dit parfois des choses sur ceux qui le pratiquent. Pendant le match, Emmanuel Macron aura beaucoup tenté, raconte Stéphane Corby, mais pas réussi grand-chose. Au bord du terrain, deux ados donnent leur impression au journal. Ce n'est pas le meilleur joueur, mais il se bat. Et à la fin, il aura quand même marqué un but sur pénalty. Victoire de l'équipe présidentielle 5-3. Facile un match de gala. Mais la Coupe d'Europe, parce que c'est ça le gros sujet à la une de vos journaux. Le discours de Macron en fin de matinée à la Sorbonne.
Alors vous avez entendu ce qu'a dit l'Élysée, Olivier. Ce n'est pas un événement de campagne. C'est un moment institutionnel.
Bien sûr, Dimitri. Mais personne n'est dupe. Tous vos journaux ont bien compris qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron entrait en campagne pour sauver ce qu'il peut de la Macronie. Macron joue gros, annonce les échos. Oui, l'Europe, c'est le dernier combat de Macron, titre l'Opinion. Reste-t-il un tour dans le sac du magicien, s'interroge François-Xavier Bourmeau dans ses colonnes, usé par 7 ans de pouvoir, cabossé par les crises, affaibli par la dérive des finances publiques. Macron joue à la Sorbonne l'une de ses dernières cartes politiques, écrit-il. Mais c'est que son bilan européen est le meilleur atout du président, explique en substance Stéphane Vernet à la une de Ouest France. En 2017, ces mots avaient marqué les esprits et bousculé les chancelleries, rappelle-t-il. Mais pour quels effets, s'interroge Vincent Trémollet de Villers, l'éditorialiste du Figaro, qui a eu l'idée de relire le texte de 2017. 7 ans plus tard, écrit-il, se plonger dans le discours de la Sorbonne, c'est contempler après la fête une guirlande dont la plupart des ampoules sont éteintes. Subsistent les tours de bonneteau sémantique et un formidable inventaire de déceptions, immigration, transition écologique, politique agricole, et de citer cruellement les propos présidentiels lorsqu'il déclarait « Je souhaite que notre partenariat avec l'Afrique soit un élément de refonte du projet européen ». C'était en 2017. La politique au long cours, c'est évidemment plus compliqué que de marquer un péno à la fin d'un match.
Alors après la Sorbonne, cap sur une autre université.
Columbia, en plein cœur de New York. Lisez le reportage ahurissant d'Adrien Jolme du Figaro, où l'on se dit après que nos jeunes woke de Sciences Po Paris sont vraiment des petits joueurs. À New York, les pro-palestiniens ont installé un village de tentes pour bloquer l'université. Et comme rue Saint-Guillaume, il ne fait pas bon être juif dans les parages. Un professeur totalement décontenancé témoigne. L'université réagirait si des slogans étaient dirigés contre des noirs ou des homosexuels, mais a priori, les discours ouvertement antisémites ne gênent personne, et de résumer la situation ainsi. Si je dis dans mon bureau à une étudiante qu'elle est jolie, je serai mis à la porte dans les 48 heures, mais si je vous dis qu'il faut raser Tel Aviv, ça ne fera pas de vague. Reste une question, quelle va être la conséquence de tout ça ? À Gaza, aucune, mais aux élections de novembre, eh bien, il ne faut pas être grand clair pour savoir comment l'Amérique profonde et raisonnable va voter.
Autrement, vous nous avez réservé une surprise pour la fin.
Oui, bah vous vous souvenez qu'hier, je vous parlais de super centenaire. Eh bien, aujourd'hui, place à un super septuagénaire. Paris Match, donc, qui célèbre cette semaine ses 75 ans avec un numéro collector de 220 pages. Alors, évidemment, il fallait trouver le truc. Et je dois reconnaître, mon cher Jérôme Béglé, que vous avez eu la bonne idée. Parce que quoi mettre en une de ce numéro exceptionnel ? On imagine les réunions à n'en plus finir, pour résumer à la fois le temps qui passe et l'humeur du moment, réussir un coup journalistique, un événement people, mais pas anecdotique. Quelle personnalité pour marquer l'époque et résumer Paris Match ? Un roi ? Un politique ? Une princesse ? Une star ? Alors, vous avez un peu divulgué le suspense, mon cher Dimitri, mais pour ceux qui n'ont pas entendu le teasing, voici un indice.
Pierre Bachelet ?
Vous avez mis Pierre Bachelet en une ?
J'ai osé.
Eh oui, les bronzés, l'ermite, Clavier, Chazelle, Balasco, Junior, Moineau et Blanc, ils sont tous là, la troupe du Splendide qui a 50 ans. Alors vous lirez aussi l'histoire de cette photo, de ces retrouvailles. Et comme j'ai pas le temps, permettez-moi, mon cher Dimitri, juste de souhaiter un très bon anniversaire à Paris Match.
Ben oui, Jérôme Béglé.
Merci.
C'est sacré coup. Mais racontez-nous un peu cette photo. Elle a été difficile à monter. Les 7, quand même, ils sont tous là.
Faire coïncider leurs emplois du temps, c'était compliqué. Ils sont tous en tournage, sur les planches. Ils n'habitent pas forcément tous Paris.
Oui.
Et donc, arriver à les mettre vraiment dans un seul et même lieu, c'était donc le samedi 13 avril, au théâtre du Splendide, justement.
Il y en a qui ne voulaient pas être avec les autres, non, sans nous dire les noms. Mais
Il y en a deux qui ont été un peu plus réticents que les autres. Oui. Et à la fin, ils étaient tellement contents de se voir. Ils nous ont tous appelés pour dire que c'était merveilleux, etc. Non, ils sont joyeux, ils sont heureux, ils ont envie de faire des bêtises ensemble. C'est bien, ils se prennent pas au sérieux. Et tant mieux.
Le Splendide, les Rois du Rire, réunis pour le 75e anniversaire de Paris Match. Merci beaucoup Jérôme Béglé. On vous retrouve dans un instant pour votre zapping politique. Mais pour l'heure, merci aussi Olivier Delagarde pour cette magnifique revue de presse une fois de plus. Et n'oubliez pas, vous connaissez le rendez-vous sur Europe 1, c'est de 11h à 13h. Vous prenez la parole, chers auditeurs, on vous attend. L'actualité, c'est vous qui la commentez avec Pascal Pro. Bonjour Pascal.
Le Splendide qui avait été créé en 1974.
50 ans.
Il y a 50 ans. Nous pourrons parler de la GPA. Le Parlement européen a criminalisé hier la gestion pour autrui, la GPA, qu'il considère comme un trafic d'êtres humains. Et c'est au moment où Marion Maréchal a pris position hier contre la GPA. Et c'est intéressant parce qu'elle s'est fait insulter et traiter d'homophobe parce qu'elle était contre la GPA. Non, on peut être contre la GPA et... D'ailleurs, ça ne concerne pas simplement les couples homosexuels, la GPA. Ça peut concerner les couples hétérosexuels. Donc, ça sera intéressant de savoir si aujourd'hui Prisca Thévenot ou Clément Beaune, qui n'ont pas eu de mots assez durs hier contre Marion Maréchal, prouvent également que le Parlement européen est homophobe par cette prise de décision. On pourra revenir évidemment sur les 75 ans de Paris Match. Je crois que vous serez là d'ailleurs avec nous.
Bâton d'hiver midi.
Exactement. Donc ça nous fera plaisir d'évoquer, parce que c'est notre vie quand même, Paris Match.
Bah oui, tout à fait.
On a tous connu.
Était chez le coiffeur.
Mais non.
Non, mais c'est, non, bah oui.
Je pars.
Mais non, mais si, mon premier Paris Match, j'ai dû chez le coiffeur.
On est très fiers d'être chez le coiffeur.
Le dentiste, chez le
médecin. Moi, je trouve que vous savez ce qui est bien dans Paris Match, parfois, c'est les maisons de vacances.
Ah oui, c'est ça qui est
bon. Il y a des vieux Paris Match qui traînent dans les maisons de vacances ou quand on. Voilà, on revient un an après, puis ou deux, dix ans après, c'est un vieux Paris Match qui traîne. Donc,
et on s'aperçoit que les Didi a bien changé à ce moment-là.
Exactement. Et alors, il y a autre chose qui est amusant, c'est que Emmanuel Macron parle aujourd'hui, il parle de l'Europe, au moment où l'Europe est en séance plénière.
Absolument, c'est
donc,
vrai.
Donc
c'est vrai.
Les gens qu'il a invités ne peuvent pas être là. Par exemple, Nadine Morano, elle a fait un tweet en disant mais le président, il nous demande de sécher le Parlement européen au moment où il parle de l'Europe.
C'est qui le patron? C'est ça la question, Pascal.
Il est étrange parfois, ce président. Hein, mais il joue bien au football.
Est-ce que Jordan Bardella sera présent? Rappelez-vous, Jordan Bardella qui est invité à venir écouter le président.
Mais de la même manière, c'est très facile pour eux de dire, et de faire presque un acte politique, de dire écoutez, pardonnez-moi, je suis au Parlement européen. Et au contraire, je ne sèche pas. Donc, c'est parfois, il y a un peu... pas dans tous les domaines, bien sûr, mais un peu d'amateurisme, me semble-t-il.
Allez, on en parle en tout cas de tous ces sujets sur l'antenne d'Europe 1. C'est de 11h à 13h avec Pascal Praud, le numéro Anissa Haddadi.
01 80 20 39 21, numéro non surtaxé. Pascal Praud et vous, 11h, 13h.
Ouais, Pascal qui vous accompagne dès 9h sur l'antenne d'Europe 1 avec l'heure des pros. A tout de suite. Emmanuel Ducrot, vous nous parlez ce matin d'un petit ouvrage qui paraîtra le 17 mai, 5 euros. C'est la nouvelle édition du Guide du manifestant arrêté. C'est vendu avec le slogan suivant, le livre a glissé dans sa poche avant de descendre dans la rue.
C'est la mise à jour d'un petit bouquin qu'on trouve déjà en ligne gratuitement dans une édition de 2019, téléchargée 15 000 fois. Ça peut servir si vous avez l'intention de participer à des manifs musclés. C'est le guide du routard de la garde à vue, le petit futé du commissariat, le Michelin de mise en examen.
Bon, c'est sérieux ce guide-là?
Ben oui, c'est très sérieux. Comment est-ce qu'un ouvrage rédigé par les membres du syndicat de la magistrature ne le serait pas? Vous avez bien entendu, ce sont des juges, des procureurs syndiqués qui donnent leurs meilleurs conseils à des interpellés. Le syndicat de la magistrature se dit, je cite, fidèle à sa tradition d'accompagnement des luttes et des revendications du mouvement social. Vous pensiez naïvement que les juges étaient là pour rendre la justice? Ben pas du tout. Ceux du syndicat de la magistrature ont choisi leur camp, celui des émeutiers.
Bon, qu'est-ce qu'on apprend dans ce guide?
Alors je cite, on vous contrôle, on vous arrête, on vous reproche une infraction, on vous juge en comparution immédiate, on vous fiche. Ce petit guide vous explique vos droits, le déroulement légal des procédures. Il vous propose aussi des conseils pratiques pour savoir comment réagir au mieux face à chaque situation. Alors comment distribuer des petits papiers avec vos coordonnées aux personnes qui pourraient témoigner en votre faveur en cas d'interpellation? Comment garder le silence devant les policiers? Comment faire bonne impression au tribunal en mettant en avant sa stabilité professionnelle? On vous explique aussi quels sont les motifs de nullité des procédures et puis comment nettoyer son casier judiciaire. Alors il s'agit, je cite l'édition de 2019, celle qui est disponible, de réagir face au pouvoir installé dans une frénésie législative et policière avec pour conséquence et parfois pour finalité la répression de l'expression collective. L'iconographie ne trompe pas, il y a du mégaphone, il y a du policier à bouclier, c'est beau comme un tract d'ultra-gauche. Pour l'impartialité de la justice, on repassera.
C'est quand même un drôle de mélange des genres, non?
Bah oui, que des avocats ou des officines militantes éditent ce genre de brochure, ils seraient dans leur rôle. Mais des magistrats qui donnent à mots couverts les trucs et astuces pour minimiser l'application de la loi, c'est choquant. Ça éclaire d'une lumière crue le sentiment de laxisme que donnent souvent les décisions de justice face aux auteurs des manifs qui dérapent. Le syndicat de la magistrature, souvenez-vous, c'était ce fameux mur des cons sur lequel on punaisait les visages des parents des victimes de crimes jugées trop vindicatifs. Eh bien, il est constant, ce syndicat. Ce qu'il prend maintenant pour des cons, ce sont nous tous, les citoyens qui respectons la loi, quand il cajole de ses conseils ceux qui sont prêts à l'enfreindre.
Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci Emmanuel, 8h52.
7h, 9h, Europe 1 Matin.
Et voici le zapping politique Europe 1. Bonjour Jérôme Begler.
Bonjour à tous, bonjour Dimitri. Un zapping politique empreint d'indignation et de bon sens ce matin. On commence par le président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, qui n'en revient toujours pas du traitement très très favorable obtenu par les cheminots afin de contourner la loi sur les retraites. Il s'en est expliqué sans embâge hier au micro de Sonia Mabrouk sur Europe 1 et CNews.
Le chantage à la grève a payé, voilà. Le chantage a payé, mais la gréviculture a gagné. Et en réalité, on a le contournement de la réforme des retraites qui a à peu près un an seulement sur des fonds publics.
Continuons notre cure de parler vrai. Béatrice Brugière, elle est magistrate pénaliste. Elle s'est penchée sur les mots MAUX qui assaillent l'éducation nationale. Sur RTL, elle livre quelques chiffres à Amandine Bégaud qui semble ne pas y croire tant ils sont édifiants.
Pour les élèves de CM1, CM2, donc CM1, CM2, on est sur...
9-10 ans.
9-10 ans, merci. Vous avez... quasiment 23% des élèves qui viennent à l'école avec la boule au ventre parce qu'ils ont déclaré qu'ils ont très peur de la violence au sein de l'enceinte scolaire.
Un enfant sur quatre de 9-10 ans a peur d'aller à l'école.
Vous voyez, le rapport, il date de septembre 2022, donc il est déjà un petit peu ancien. On parle de 23%, donc c'est pratiquement un élève sur quatre.
Parfois, le bon sens reprend ses droits. Philippe Cour, qui est préfet du Val-d'Oise, revient sur cette famille expulsée de son logement social de Taverny après avoir commis à de multiples reprises des actes de délinquance. Pour lui, pas de doute possible, cette famille ne peut plus profiter d'un logement social. Écoutez-le au micro de Romain Desarbres dans la matinale de CNews.
Un parc social, logement social, c'est un logement qui est aidé à la construction et qui également aidé à la location, vous savez, au travers des APL que le contribuable finance. On a 80 000 familles qui attendent des logements sociaux en Ile-de-France, donc ce logement sera rattrapé à une famille paisible. Non, cette famille, elle va faire comme beaucoup de Français, elle va devoir chercher un logement par elle-même dans le parc privé.
Objet de nombreuses critiques de ses adversaires politiques, Fabrice Leggeri, qui est numéro 3 de la liste Rassemblement National aux Européennes, répond à ses détracteurs et explique le rôle trouble, pour ne pas dire un peu plus, et en tout cas contraire à l'intérêt général, de certaines ONG, c'était hier dans l'émission de Pascal Proust sur CNews.
Il y a des ONG en France, en Europe, qui sont de fait en train de faire le jeu de ces organisations qui envoient les migrants à la mort.
Terminons avec les débats qui débutent sur la question de la fin de vie. À l'Assemblée nationale, les députés ont auditionné les représentants des religions pour entendre leurs idées, pourquoi pas leurs réserves sur le projet de loi. Ainsi, l'archevêque de Rennes, Pierre Dornelas, qui devant les caméras de LCP pose les bonnes questions.
Pourquoi ne pas largement favoriser, comme le souligne le Conseil d'État, la sagesse pratique plutôt que de rendre légal par le droit l'acte létal? Pourquoi trancher par le droit ce qui relève de cette sagesse éprouvée par le temps et par la transdisciplinarité? Il me semble qu'il faut encourager cette recherche, la favoriser et lui faire confiance.
Merci beaucoup Jérôme Begler pour votre zapping politique et encore bravo pour... ce bel anniversaire,
merci,
Paris
merci.
Match, à 75 ans et toutes ses dents. À la semaine prochaine. Allez, restez avec nous sur Europe 1 à partir de 9h30. N'oubliez pas Culture Média avec Thomas Hill. Les invités ce matin, Anissa Dadi.
Un très bel invité, un homme qui a réalisé Le Père Noël est une ordure, Les Visiteurs ou encore ceci.
Je n'ai pas tranché.
L'homme qui est derrière Papy fait de la résistance, entre autres, mais aussi Les Anges Gardiens, Cornette Beef, etc. On va parler de toute sa carrière. Il publie ses mémoires et sa vie est un véritable film. Jean-Marie Poiré sera l'invité de Culture Média entre 9h30 et 11h sur Europe 1.
Voilà, et dans quelques instants sur Europe 1, l'information continue. Vous retrouvez Pascal Praud pour l'heure des pros. Je vous souhaite une excellente journée. À demain.
Europe 1. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Hola patronne.
Quoi hola?
En ce moment, chez Lidl, la tortilla de 500 grammes est à 2,55€.
2,55€ la tortilla?
Et la deuxième est à 1,28€, moins 50% aux épinards, poivrons ou chorizo.
Moi, il n'y a pas tortillé, on est mal.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 5,10€ le kilo le produit seul, 3,83€ le kilo pour deux produits, transformés en Espagne. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, bougez plus.
Tic-tac, 4 jours exceptionnels vous attendent chez Ixina. Durant ces portes ouvertes, Ixina vous offre non pas 150, mais 200€ par tranche de 1000€ sur votre cuisine équipée. Pour en profiter, rendez-vous en magasin avant le 28 avril.
Ixina, vie à vos rêves. Voir conditions sur ixina.fr.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élu voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Enfin, au livre de poche, le thriller ésotérique du duo star Giacometti et Raven. Le Graal du Diable. 1944, des partisans anti-nazis terrorisent la région des Balkans. Tristan Marcas plonge de nouveau dans les coulisses occultes de la Seconde Guerre mondiale, en quête du Graal. Le Graal du Diable, de Giacometti et Raven, au livre de poche.
Chez But, qui dit promo dit
envie de changer de déco.
Voilà, c'est ça.
En ce moment, But vous fait 20% de remise des 3 produits achetés sur l'ensemble de l'univers déco. Oui, moins 20% pour décorer toute votre maison.
Voilà, voilà.
Sélection de produits et conditions de l'offre en magasin et sur But.fr.
Et si vous aviez l'occasion de rouler en première classe au prix de la seconde ? DS Automobile présente le surclassement en DS3 Crossback d'occasion. Car si ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le voyage, pourquoi vous contenter de bien quand vous pourriez avoir mieux ? Jusqu'au 30 avril, vivez une expérience de conduite premium à bord d'un DS3 Crossback E-Tense 100% électrique d'occasion à partir de 199€ par mois. Surclassez-vous avec DS Certified. Voir conditions sur dscertified.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Bonjour, c'est Stéphane Bern. On se retrouve cet après-midi de 15h à 16h dans Historiquement Vôtre sur Europe 1.
Historiquement Vôtre.
Je vous raconte une date restée dans l'histoire, le 25 avril 1974, il y a 50 ans jour pour jour, lorsqu'une insurrection militaire a mis fin au régime autoritaire initié par Salazar. La véritable histoire de la révolution des œillets au Portugal.
Historiquement Vôtre. Avec...
Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros, jusqu'à 9h30 sur Europe 1, jusqu'à 10h30 sur CNews. Le Parlement européen a criminalisé mardi la gestation pour autrui, la GPA, qu'il considère comme un trafic d'êtres humains. Cette décision intervient au moment où Marion Maréchal a pris position hier contre la GPA. Sur le réseau Twitter, la tête de liste de Reconquête a commenté la naissance de jumeaux annoncée par Simon Jacquemus, un styliste réputé par son mari.